Alors, la chute d'un intouchable pour complément d'enquête, un système PPDA pour libération. Depuis février 2021, les témoignages de femmes s'accumulent contre l'ancienne star du JT de TF1, Patrick Poivre d'Arvor. Elles sont aujourd'hui 27 à accuser PPDA de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol. Que disent ces témoignages de Patrick Poivre d'Arvor et de son statut à TF1, chaîne sur laquelle il a régné pendant 22 ans, de 1986 à 2008 ? Comment la première accusation publique, formulée par Florence Porcel en février 2021, a-t-elle entraîné une avalanche de nouveaux témoignages et de nouvelles plaintes ? Comment les journalistes ont enquêté sur l'un de leurs confrères les plus puissants ? Et puis finalement, la question centrale, que savait la direction de TF1 de l'époque ? Avec moi aujourd'hui, pour tenter de remonter le fil de cette affaire, Muriel Réus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente et fondatrice de l'association Femmes Avec et vice-présidente de MeToo Media, on va en reparler un peu plus tard. Vous avez témoigné contre PPDA dans un dossier publié en Une de Libération le 9 novembre 2021. Et vous êtes, on va y revenir, visée par la plainte du journaliste qui vous accuse avec 15 autres femmes de dénonciation calomnieuse. À côté de vous, Benoît d'Aragon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service Récit du Parisien. C'est votre journal qui a révélé l'existence d'une première plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor et vous avez vous-même enquêté sur le rapport du journaliste aux femmes et recueilli de nombreux témoignages qui dénonçaient un problème PPDA. Je précise tout de suite, et on va aussi y revenir, que Patrick Poivre d'Arvor attaque votre journal en diffamation pour ses révélations. Avant de commencer, on va peut-être commencer par un petit point judiciaire parce qu'il y a beaucoup de choses. La situation aujourd'hui, c'est que Patrick Poivre d'Arvor est toujours visé par plusieurs plaintes pour viol et harcèlement sexuel. Après la publication de nombreux témoignages dans Libération, il a à son tour porté plainte pour dénonciation calomnieuse, je le disais à l'instant. Il attaque aussi donc, le Parisien en diffamation et on précise tout de suite que évidemment Patrick Poivre d'Arvor est présumé innocent aux yeux de la justice et qu'il a toujours nié l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Avant de vous donner la parole à tous les deux, on va remonter un peu le temps. Février 2021, une écrivaine, Florence Porcel, porte plainte contre le journaliste pour viol. L'affaire PPDA est partout, même au JT de TF1.
On a appris par ailleurs ce soir qu'une enquête préliminaire pour viol a été ouverte par le parquet de Nanterre à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor suite à une plainte déposée par une femme.
Patrick Poivre d'Arvor visé par une enquête pour viol, Émilie.
L'ancienne star du journal télévisé est accusée par une écrivaine, Florence Porcel, de viol à deux reprises, la première fois en 2004, puis la deuxième fois en 2009, ce que le journaliste récuse fermement. La nouvelle fait la une des journaux papier et télévisé.
Une femme, Florence Porcel, accuse donc de viol celui qui a été le visage de l'information à la télé pendant des décennies, Patrick Poivre d'Arvor.
Elle ne parle pas de menaces ou de contraintes, elle parle d'emprise psychologique, Florence Porcel.
À l'automne 2004, elle lui écrit pour le féliciter au sujet de son dernier ouvrage et lui demander des conseils d'écriture. S'ensuit en novembre une première rencontre de 15 à 20 minutes dans son bureau à TF1. C'est là que le premier viol aurait eu lieu selon l'écrivaine. Elle a porté plainte pour viol aggravé et rapporte une deuxième agression survenue en 2009. Pour le journaliste, tout cela n'est qu'affabulation.
Alors Benoît d'Aragon, avant la plainte de Florence Porcel que vous avez révélée dans Le Parisien, il y a d'abord un roman qu'elle a écrit. Et en fait, dans ce roman, elle raconte son histoire, mais elle ne donne jamais le nom de Patrick Poivre d'Arvor. Comment vous avez su qu'il fallait enquêter sur Patrick Poivre d'Arvor à ce moment-là?
En fait, on a entendu parler d'un livre. On était en pleine... Camille Kouchner venait de sortir La Familia Grande, livre qui était resté secret jusqu'au dernier jour. Et on entend parler, mon collègue Jean-Michel Descugis, qui travaille au service Faits divers du Parisien, entend parler d'un livre qui accuserait Patrick Poivre d'Arvor de viol. Donc on se met à chercher quel éditeur. On pense à un livre secret qui voilà, serait révélé 24 heures avant la publication. Et en fait, on se rend compte assez vite que ce livre, en fait, il est déjà sorti. Il est sorti en janvier. Il s'appelle Pandorini.
Et il faut le dire, à l'époque, c'est un livre qui est un peu confidentiel.
C'est un livre dont peu de gens ont parlé avant, au moment de sa sortie. C'est un roman avec, qui raconte l'histoire d'un acteur qui s'appelle Pandorini, qui est une espèce de monstre sacré du cinéma, qui, dans le livre, défend la cause des femmes, notamment des femmes battues. Elle est très impliquée dans les causes féministes et qui, par ailleurs, abuse sexuellement de la narratrice de ce roman. Donc ce roman, quand on se rend compte qu'il s'agit de ce livre-là, évidemment, on va l'acheter, on le lit. On commence à essayer de rentrer en contact avec Florence
Porcel. Est-ce qu'à la lecture, quand on sait que c'est PPDA, est-ce qu'à la lecture, on se dit...
À la lecture, on ne sait pas que c'est PPDA. À la lecture, on est dans un roman, je vous dis, ça se passe dans le milieu du cinéma, donc on est plutôt...
Même en le sachant, il n'y a pas des éléments qui sautent aux yeux en se disant « Ah oui, c'était là, en fait. »
Non, il y a un récit voilà, qui ressemble à beaucoup d'affaires MeToo qui sont sorties depuis 3-4 ans. Voilà, on n'est pas surpris. Après, c'est assez précis. On sent la douleur. Les récits sont très crus. Le livre est assez choquant. Le livre, il est révoltant. Et donc, du coup, on se dit, on va rencontrer Florence Porcel. Et là-dessus, la rédaction se divise en deux équipes. Il y a une équipe qui va enquêter sur Florence Porcel, rentrer en contact avec elle. On apprend qu'elle va porter plainte contre PPDA. Donc, voilà, le service police-justice enquête sur cette partie-là. Et moi, je pars plutôt pour essayer de comprendre est-ce que ce que raconte Florence Porcel dans son livre est plausible, il est vrai. Est-ce que PPDA, on savait qu'il était un séducteur, un don Juan, mais est-ce qu'il ne serait pas plus que ça? Est-ce qu'il ne serait pas autre chose que ça? Est-ce que Florence Porcel est la seule à qui il est arrivé un problème? Ou est-ce qu'il y a d'autres femmes qui ont vécu des situations analogues? Donc voilà comment ça part notre enquête, et on décide de publier les deux papiers de façon concomitante, la plainte et le contexte, c'est-à-dire un portrait assez poussé des frasques de Patrick Poivre.
Et c'est une enquête qui prend combien de temps à peu près?
Ça prend un gros mois. De mémoire, on a, je vous dis, enquêté début janvier, et le papier sort mi-février, donc c'est 5 à 6 semaines d'enquête où voilà, j'appelle beaucoup de gens qui ont pu croiser Patrick Poivre. Et c'est pas très difficile, au fond. Il y a beaucoup de femmes qui ont des choses à raconter, des choses anodines juridiquement, qui sont des choses déplacées, désagréables, des moments très embarrassants, et puis des agressions sexuelles. Et Florence Porcel, elle porte plainte pour viol, elle raconte un viol.
Alors Muriel Réus, vous, en novembre, vous avez raconté comment PPDA avait tenté de vous agresser sexuellement dans son bureau. Vous travaillez à l'époque pour TPS, qui est une filiale du groupe TF1, et il vous invite, on va le découvrir après comme beaucoup d'autres, à venir sur le plateau du 20h. Selon votre récit, son assistante vous convie dans son bureau, et ensuite je vais citer votre témoignage dans Libération. Vous dites « Arrivé dans son bureau, je l'attends. PPDA arrive, il ne me dit pas bonjour ou à peine. Son assistante s'en va, prétextant qu'il est tard, et ferme la porte. Je trouve cela curieux, parce que ce n'est pas l'usage à TF1. PPDA ne parle toujours pas, il se lève et ferme la porte à clé. Stupéfaite, je n'ai pas le temps de réagir qu'il est déjà en face de moi, il essaye de m'embrasser, il défait sa ceinture et baisse son pantalon. Il ne m'a pas demandé comment j'ai trouvé le JT, il ne m'a pas offert un verre, cela se passe en un quart de seconde, il n'y a aucune séduction, c'est une tentative mécanique de commettre un acte sexuel. J'ai un instant de sidération et je lui dis « Mais Patrick, qu'est-ce que tu fais? Tu connais mes relations avec la direction de TF1. » Ça le stoppe et je sors du bureau. C'est un témoignage qui est évidemment très fort, et on va s'en rendre compte qui ressemble à beaucoup d'autres qui ont été apportés depuis le début de cette affaire. Quand vous avez appris que PPDA était accusé de viol par Florence Porcel, qu'est-ce que vous avez pensé ?
J'ai pensé que...
À ce moment-là, vous n'avez pas encore témoigné.
Non, à ce moment-là, je n'avais pas encore témoigné. Enfin, j'avais prévenu. J'avais quand même alerté la direction générale et la présidence de TF1, dès le lendemain d'ailleurs. Quand j'apprends que Florence Porcel porte plainte, je me dis, voilà, on y est.
Vous pensez déjà que ça va déclencher autant de choses ?
Je pense que ça va déclencher beaucoup de choses, oui. Je pense qu'effectivement, la parole de Florence va libérer la parole des autres. Le plus difficile dans ce type d'affaires, c'est peut-être la première victime à parler. C'est compliqué de parler. C'est compliqué parce que ça vous expose, ça change le regard des autres, ça vous place dans un statut de victime, ce qui est forcément très désagréable. Cette démarche, elle est compliquée. D'ailleurs, elle est tellement compliquée que 80% des femmes, dans des cas de violence, ne portent pas plainte, et que dans le cas de violences sexuelles, qui sont à peu près de 90 000 par an, 90% des femmes ne portent pas plainte. Donc vous voyez, c'est extrêmement compliqué, c'est une démarche très impliquante. Et à ce moment-là, je me dis oui, mon réflexe naturel est de me dire voilà, ok, on y est, quoi. Maintenant, de nombreuses femmes vont parler.
Alors, l'affaire Porcel a évidemment déclenché la vague de témoignages qu'on connaît. 15 jours après les révélations du Parisien, Patrick Poivre d'Arvor prend la parole pour la première fois. C'est sur le plateau de Quotidien, sur la chaîne TMC, qui appartient au groupe TF1. Et évidemment, l'interview va faire beaucoup parler, parce qu'on va découvrir un Yann Barthès très mal à l'aise, visiblement, à l'idée d'interroger Patrick Poivre d'Arvor.
Bonsoir Patrick Poivre d'Arvor, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Vous avez 73 ans, vous avez été pendant plus de 30 ans le journaliste le plus influent et le plus regardé de France, un des hommes les plus puissants de la télévision, la grande star de l'info. Vous êtes aussi écrivain, vous avez inspiré la marionnette des Guignols qui a présenté l'autre grand JT de France pendant 20 ans. Le soir dont vous parlez, c'est le soir qu'elle décrit, où elle décrit que plus tard dans la soirée, il s'est passé quelque chose, c'est le fameux soir... Elle vous accuse de viol ?
Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, cher Yann.
Quand elle dit qu'il y a eu viol, qu'elle vous accuse de viol...
Mais je vous dis que absolument pas.
Il n'y a pas eu de rapport sexuel. Désolé de vous poser cette question.
Je n'ai jamais parlé de ma vie privée. Jamais.
Toutes les associations et les études le disent, les fausses allégations de viol sont très rares. Comment vous expliquez, du coup, les déclarations de Florence Porcel ?
Mais je ne peux pas expliquer, je ne suis pas dans sa tête, je n'ai pas demandé d'expertise psychiatrique.
Comment vous estimez aujourd'hui que votre honneur a été sali ? Comment vous comptez le rétablir ?
Bah, d'abord, il y a ces plaintes en diffamation qui sont en train d'être rédigées par mes avocats. Il y a peut-être 25 ans, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Lettres ouvertes aux violeurs de vie privée ». Donc, il est assez naturel. Je m'en prenais déjà à ces paparazzi et à tous ces journaux à scandale. Bon, il est peut-être naturel qu'il se venge.
Benoît d'Aragon, ça c'est pour vous, la fin. Le Parisien, journal à scandale. Alors, est-ce que l'affaire Pepeda, c'est une affaire de vie privée ?
Non, c'est pas une affaire de vie privée, c'est une affaire publique, puisque il y a une plainte portée contre lui. Et dans Le Parisien, très régulièrement, on fait part de plaintes qui sont déposées contre des personnalités, qu'elles soient politiques, des artistes, des intellectuels. Voilà, ça fait partie de la vie publique, quoi, des plaintes. Donc on prend pas parti, on l'a appelé, on clame bien, comme vous l'avez fait tout à l'heure, qu'il est présumé innocent et qu'il nie les faits qui lui sont reprochés. Après non, à partir du moment où il y a des plaintes pour viol contre une personnalité, malheureusement ça devient un fait public, une information publique.
Muriel Réus, dans cette interview, alors, il y a beaucoup de choses à analyser, mais il y a quand même quelque chose qui ressort très fort, c'est le poids médiatique de PPDA. On a l'impression qu'on touche à un monument dans cette interview et qu'on a beaucoup de mal à l'interroger. Yann Barthès a du mal à prononcer le mot viol. Il s'excuse même de lui demander de lui parler de sa vie privée. À votre époque, est-ce que PPDA avait un tel statut ?
Oui, enfin tout le monde le dit, hein. PPDA avait un statut colossal. Il avait un énorme pouvoir. D'ailleurs, bon, complément d'enquête, dans un certain nombre de reportages, de grandes personnalités de la télévision le disent. Michel Cotta, Christine Ockrent. Michel Cotta dit qu'il aurait été impensable de se séparer de PPDA après l'affaire Castro, par
Michel
exemple.
Michel Cotta qui était à l'époque directrice de l'information.
Directrice de l'information, et après l'affaire Bouton. Oui, il avait un énorme pouvoir. Il faisait 10 millions de téléspectateurs en moyenne tous les soirs, donc on imagine bien que c'était la machine à cash de la chaîne. À l'issue de cette émission de Quotidien, il va porter plainte contre Florence Porcel pour dénonciation calomnieuse. Donc en fait, si vous voulez, à chaque fois, on a l'impression, comme la plainte qu'il vient de déposer à l'encontre de cette femme, que c'est lui qui remet dans la machine un jeton pour que finalement on reparle devant les médias et que la machine médiatique qui nous a reproché cette utilisation médiatique, en fait, c'est lui qui l'actionne à chaque fois. Oui, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir et qui a toujours un peu de pouvoir aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui avait construit un cercle de relations extrêmement important. Il a interviewé, d'ailleurs on le voit bien dans l'affaire Bouton, il a interviewé beaucoup de personnalités, beaucoup de chefs d'entreprise, il a participé à de nombreux cocktails, il a été invité à peu près partout. Donc forcément, il y a des liens de dépendance qui sont créés. Et ces liens de dépendance aujourd'hui continuent à le protéger.
Oui, c'était le JT le plus regardé d'Europe, c'est comme ça que TF1 le vendait à l'époque. C'est évidemment le journaliste le plus connu de France, le plus emblématique, quelque part. Il a des réseaux politiques très forts, parce qu'il a commenté l'actualité politique pendant des années. Il a aussi des très gros réseaux dans le milieu de l'édition, parce qu'il a écrit des nombreux livres, il a fait partie de jurys littéraires. Donc voilà, ça, c'est un milieu qu'il maîtrise bien et qu'il verrouille bien. Le milieu de la presse, c'est-à-dire que pour des journalistes, pour des rédactions, il est connu dans toutes les rédactions parisiennes et tout ça. Donc oui, c'est un homme puissant. C'est clairement un homme très puissant, sans doute une des personnalités les plus puissantes de France, même si, évidemment, il a moins de pouvoir aujourd'hui qu'il a quitté le 20h et qu'il est moins exposé médiatiquement qu'il n'en avait évidemment pendant toutes les années où il était à la tête du JT de TF1.
Il a moins de pouvoir aujourd'hui, mais ce qu'on peut constater, c'est que le silence continue à perdurer. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez essayé d'approcher d'autres journalistes pour venir sur ce plateau. Mais
beaucoup de journalistes.
Voilà, donc et beaucoup ont refusé, j'imagine.
Oui.
Donc vous voyez bien, il y a encore autour de ce personnage... Je ne dirais pas une aura, mais en tout cas, l'aura, elle est quand même compliquée aujourd'hui. Hein. Elle est très abîmée, cette aura. Mais il y a autour de ce personnage un silence qui s'est construit, c'est comme le courage, le silence, c'est contagieux. Vous voyez, donc quand on s'installe dans le silence, c'est difficile d'en sortir pour avouer ou pour dire qu'on a été témoin. Et quand on est témoin et ne pas parler dans certaines circonstances, c'est un peu de la non-assistance à personne en danger. Donc on peut se poser cette question de ce milieu encore journalistique, ce milieu d'édition, ce milieu des affaires, ce milieu de la politique, qui continue à le protéger en ne parlant pas.
Et pour rebondir d'ailleurs, Patrick Poivre connaît 95% des présentateurs télé aujourd'hui, ils les connaissent tous, les journalistes, les gens qui présentent les JT, ils ont tous rencontré une fois dans leur carrière ou plusieurs fois Patrick Poivre d'Arvor. Parfois, ils ont travaillé avec lui. Est-ce que vous avez entendu des présentatrices de JT ou des présentateurs de JT venir soutenir Muriel et ses camarades qui sont des femmes qui ne sont pas connues du grand public jusqu'à il y a 6 mois. Le grand public ne connaissait pas votre existence. Donc voilà, est-ce qu'il y en a très peu. Il y a eu Frédéric Lantieri qui a longtemps présenté Faites entrer l'accusé, qui l'a fait dans Complément d'enquête il n'y a pas longtemps. Et c'est à peu près tout. Il y a très peu de femmes qui descendent dans l'arène alors qu'il est probable qu'il y en ait beaucoup qui aient des choses à raconter.
Justement, après l'interview de Quotidien, donc, on ne l'a pas mis dans l'extrait, mais chez Quotidien, PPDA a aussi dit, de toute façon, tout ça, c'est des témoignages anonymes. Personne ne viendra me dire les yeux dans les yeux ce que j'aurais fait à l'époque. C'est cette phrase qui vous a...
Oui, c'est cette phrase
qui vous a convaincu de parler.
Bien sûr. Si vous voulez, c'est quand même... elle est énorme, cette phrase. Il y avait les petits bisous dans le cou, ok, très bien. Et puis, il y a la phrase sur l'anonymat. Donc, je veux dire, c'est une provocation. Bah, très bien, il nous a provoqué. En tout cas, moi, je l'ai pris aussi comme une provocation.
Vous l'avez pris comme un défi, presque ?
Bon, je l'ai pris comme...
C'est vous qu'on voit en...
C'est tellement... c'est tellement invraisemblable comme stratégie de défense ou d'accusation que voilà, ça a provoqué chez moi, oui, une réaction en disant « Très bien, écoute, on va te montrer, en tout cas, moi, je vais te montrer que parler à visage découvert, c'est absolument pas un problème pour moi. »
Et vous l'avez fait aussi parce que vous étiez plusieurs ? Est-ce qu'il y avait cette force du groupe ou est-ce que même toute seule, vous y auriez été, quoi qu'il arrive ?
Moi, je ne savais pas. Objectivement, quand j'ai parlé au major, je ne connaissais pas le nombre de plaintes et le nombre de témoignages. Je ne les connaissais pas. Je connaissais celle de Florence parce que c'était la plus médiatique. Mais cette phrase, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un moment, puis en plus, bon, vous connaissez mes engagements, je préside une association, mon quotidien, c'est défendre la liberté et le droit des femmes. Donc, ça m'a semblé tellement énorme que je... Voilà, on a une verticalité personnelle, donc par rapport à ma structure de personnalité, par rapport à mon quotidien, il était impensable que je n'aille pas à ce moment-là dire ce que je savais du système, surtout. Et c'est ça qui m'a paru important de partager.
Alors on l'a dit hein, tout à l'heure, vous racontez que vous avez été que PPDA a tenté de vous agresser sexuellement dans son bureau. C'est un bureau qui est au centre aujourd'hui des révélations sur Patrick Poivre d'Arvor. Complément d'enquête a diffusé 2 témoignages qui éclairent un peu le fonctionnement de la tour TF1 pendant les années PPDA. Le premier, c'est le directeur de la sécurité de l'époque, et le deuxième, c'est Dominique Bromberger qui était journaliste et joker de PPDA au JT jusqu'en 1995.
PPDA avait pris l'habitude d'inviter des femmes dans les coulisses de son JT. Un rituel que Philippe Lébert a observé de près. Il a été pendant 25 ans coordinateur de la sécurité de TF1. Il travaillait le soir et parfois il accompagnait ses invités.
Mais moi, ça ne me regardait pas, quoi. Je veux dire, que ce soit des femmes, il aime les femmes, ok, il les reçoit, il échange. Je pense que j'ai jamais vu une invitée arriver sous la contrainte non plus. Hein. Je veux dire, dès l'instant où elle part pas en pleurs ou en état de choc parce que elle a subi une agression ou quoi, à partir de là, moi, j'interviens pas, quoi. Je vais pas tap-toquer et essayer de savoir ce qui se passe. Et ça me regarde pas, quoi.
Souvent, les invités de Patrick Poivre d'Arvor était convié après le journal dans son bureau. Dominique Bromberger était le présentateur remplaçant de PPDA. Il travaillait au même étage que lui.
Il y avait quelque chose d'étrange. C'est que tout le monde était sous les yeux de tout le monde, y compris la directrice ou le directeur de l'information. C'était un open space, sauf Patrick Poivre, qui avait son bureau fermé. Ça m'a surpris, disons. Et puis, c'est... intrigant, oui, de voir que tout le monde est sous l'œil de tout le monde, sauf une personne.
Moi, ils m'ont appelé toujours
avant. Alors, justement, dans cet extrait, on parle beaucoup du bureau. Non, c'est pas grave. Vous étiez en grande discussion pendant l'extrait, mais on parle beaucoup du bureau de Patrick Poivre d'Arvor. Qu'on comprenne bien, parce qu'il y a quand même une histoire de géographie dans toute cette histoire. Ouais. La plupart des faits qui sont révélés aujourd'hui se seraient déroulés, on va dire, dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor, qui est au cœur de la rédaction de TF1, quand même. Donc, qu'on comprenne bien, comment ça se passe, cette rédaction ? Comment ça marche ?
Moi, je ne peux pas parler de la rédaction parce que ce n'est pas,
c'était
pas
mon
job.
Vous
n'y travaillez
pas.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait un couloir, que tout était en open space et qu'au bout de ce couloir, il y avait ce bureau.
Qui était fermé. Un des rares bureaux de la rédaction qui était fermé.
Dont Dominique Bromberger dit que c'était étonnant parce que c'était le seul.
C'était le seul.
Qui avait
avec
un bureau
Robert
à lui.
Mamias, avec le directeur de la rédaction, ils étaient là en face de l'autre.
Avec les grands patrons de TF1.
Avec les grands patrons qui, eux, ne fermaient jamais leur porte à clé. Ce qui est intéressant dans le reportage, dans l'extrait que vous venez de diffuser, c'est ce coordinateur de la sécurité. Coordinateur de la sécurité, ça veut dire que je coordonne la sécurité, je coordonne des équipes. Bon, on peut relever qu'il n'est pas très à l'aise dans son témoignage. Et moi, ce que je dis, c'est que ce qui me semble incohérent et assez invraisemblable aujourd'hui, c'est que jamais personne ne s'est interrogé sur ce balai incessant, quotidien, permanent, de femmes et de jeunes femmes invitées sur ce plateau et ensuite conviées dans ce bureau à 21h où il n'y avait plus personne. Donc, si vous voulez, il y a quand même une question qui peut se poser. Dans une entreprise, on est censé être en sécurité. Pourquoi on ne s'est jamais posé la sécurité, la question de la sécurité de toutes ces femmes conviées le soir et dans ce bureau, après un JT?
Et c'est vraiment quelque chose qui était une mécanique qui était parfaitement rodée. Et tous les gens qui ont travaillé à TF1, et ça, nous, dès février 2021, on l'écrit, tous les gens qui ont travaillé à TF1 savent que PPDA a quasiment tous les jours une invitée qui assiste au JT, qui après monte dans son bureau. Il monte, il signe son parapheur avec trois papiers qu'il donne à ses assistantes, qui s'en vont, et après, il se retrouve en tête-à-tête avec son invitée. Je ne sous-entends rien sur la nature de ses relations avec ses invités, mais tous les jours, il y a des gens. Tous les jours.
Ce qui est certain, c'est que lui a reconnu devant les enquêteurs qu'il avait déjà eu des relations sexuelles dans son bureau. Ouais. Déjà, ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que ça n'interroge personne.
Non, mais c'est invraisemblable.
Donc, personne ne se dit que c'était peut-être pas normal que même consenti, il y ait autant de femmes qui défilent dans le bureau d'un homme.
Une entreprise n'est pas faite pour avoir des rapports sexuels. Aujourd'hui, vous n'avez pas un DRH ou un patron de boîte qui accepterait une situation de ce type. Lui, devant l'enquêteur, enfin, je veux dire, devant le major, il le dit, c'est écrit, il dit, mais oui, c'était normal, quoi. J'ai eu des relations sexuelles dans mon bureau, et alors ? Enfin, vous voyez, ça dénote d'une vision de ses fonctions tout à fait particulière. Ça dénote d'un sentiment de toute puissance absolue. Je m'autorise à faire ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de le faire, et même dans le cadre d'une entreprise qui me salarie et qui m'emploie.
Et ce qui est quand même étonnant, c'est que la direction de TF1, qu'on a interrogée à multiples reprises, moi et plein de confrères de journaux différents, ont toujours dit qu'ils ne savaient rien de la nature des agissements de PPDA dans son bureau. Après, le fait est, et le directeur de la sécurité le dit dans le complément d'enquête, c'est qu'il savait qu'il avait des visites, qu'il recevait des visiteuses, et qu'à aucun moment, ils lui ont même dit qu'elles soient... Enfin, même si elles sont consentantes...
Ça ne se fait pas.
Ça ne se fait pas, c'est contraire au règlement intérieur de l'entreprise. Ça ne peut pas exister, même ça. Et Muriel le dit dans son témoignage, elle a alerté la direction, vraiment la direction du groupe TF1 de problèmes, et effectivement, il ne s'est rien passé, ou en tout cas, personne n'a osé lui dire, ou en tout cas, si lui on dit des choses, ça n'a pas eu d'effet.
Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser. Vous l'avez raconté le lendemain de ce qui s'est passé avec PPDA dans son bureau. Vous avez appelé la direction de TF1, pardon. Vous avez parlé à Patrick Lelay. Alors, on précise que Patrick Lelay est décédé en 2020, donc il ne peut ni confirmer ni infirmer ce témoignage. Mais racontez-nous ce coup de fil. Qu'est-ce que vous dites à Patrick Lelay?
Moi, je lui dis, il faut que je te raconte ce qui s'est passé hier dans le bureau de Patrick Poivre d'Arvor. Et il me dit, d'abord, sa première réaction, c'est de me dire, mais pourquoi tu as été dans... Pourquoi as-tu assisté au JT? Je lui dis, écoute, la problématique, ce n'est pas de savoir pourquoi j'ai assisté au JT, c'est plutôt ce qui s'est passé ensuite. Et j'ai juste commencé à lui raconter, et il m'a interrompu en me disant, mais non, il n'a pas osé aussi avec toi. Et donc, je lui ai dit, mais si tu me réponds cela, c'est que tu sais bien qu'il se passe des choses qui ne devraient pas se passer dans ce bureau. Et il m'a dit, je m'en occupe. Voilà.
Et à votre connaissance?
À ma connaissance, je ne sais pas s'il s'en est occupé, mais en tout cas, s'il s'en est occupé, ça n'a pas eu d'effet, puisque dans les témoignages, on voit bien que la situation a perduré.
Alors, c'est un peu la question centrale de cette affaire, hein, c'est que savait la direction de TF1. On a beaucoup dit aussi que tout le monde savait qui était Patrick Poivre d'Arvor. Je vais vous montrer trois extraits. Le premier, c'est chez Laurent Ruquier, c'est l'humoriste Philippe Caprivière qui évoque l'affaire PPDA.
Bon, sauf qu'il y a eu une autre affaire cette semaine, ouais. Même s'il est présumé innocent, rappelons-le, ce sont les accusations contre Patrick Poivre d'Arvor. Ouais.
Alors la semaine dernière, c'était l'affaire Richard Berry, cette semaine, c'est PPDA. On a réagi très différemment à ces deux affaires. Berry, on s'est tous dit, oh tiens, Richard Berry, alors que PPDA, PPDA, on s'est tous dit... Oh tiens, seulement maintenant. C'est vrai, hein, non? Bref, Richard Berry, on était étonnés. Et PPDA, on était étonnés que ça sorte si tard. Voilà.
Benoît d'Aragon, tout le monde savait?
Je ne sais pas si tout le monde savait. Moi, je ne savais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes de presse écrite qui suivent les médias qui ne savaient pas. Je pense malgré tout que si on avait eu connaissance d'affaires de viol caractérisées avec des preuves, on l'aurait évidemment écrit plus tôt. Après, que ce que je disais tout à l'heure, qu'il était très séducteur, parfois lourdement séducteur, ça, on le savait. Après, voilà, il y a des choses qui révèlent d'incorrection et des choses qui révèlent du pénal et de la justice. Donc, qu'il ait violé des femmes dans son bureau, honnêtement, ça, je pense que dans la presse écrite, personne ne le savait. Après, moi, comme le dit l'humoriste de Laurent Ruquier, Philippe Cabrivière, moi, un premier coup de fil que je passe pour mon enquête, c'est une journaliste de TF1, une ancienne journaliste de TF1 qui a travaillé dans la rédaction pendant longtemps, qui me dit « Ah, ça sort enfin !» Et effectivement, quand je passe des coups de téléphone, tout le monde me dit « Ah, enfin !» Et a quelque chose à me raconter. « Ah, j'ai une amie avec qui il s'est passé un truc. » Parfois, des choses anodines, mais tout le monde, voilà, dans le milieu de la presse et des médias, et c'est peut-être votre cas, beaucoup de gens connaissaient quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose. Alors après, le boulot de journaliste, c'est pas de raconter que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est quand même de vérifier, de recroiser, de demander des infos sur les locaux qui permet quand même de voir si les gens sont vraiment allés dans ces locaux. Mais globalement, voilà, il y avait beaucoup de gens, on connaissait tous quelqu'un à qui il avait pu arriver quelque chose.
Alors, deuxième extrait, c'est donc Michèle Cotta qui était directrice de l'info de TF1 entre 1987 et 1993 et Dominique Bromberger qui était donc le joker de PPDA qui sont sommés de s'expliquer dans Complément d'enquête.
Qui, à TF1, aurait pu être au courant de ces accusations? Tous ceux que nous avons interrogés affirment n'avoir rien su, rien vu.
Est-ce que vous, pendant votre carrière, vous avez déjà eu un signalement d'une femme qui s'est plainte d'un comportement inapproprié de Patrick Poivre d'Arvor?
Non, jamais. Jamais.
À moi, vous me parlez d'un monde qui n'a pas existé. Peut-être j'étais aveugle, la main sur le feu, je vous dis la vérité. Moi, je n'ai jamais entendu parler de rien.
Je peux vous dire que je n'étais au courant de rien. Ce dont on parle, c'est essentiellement produit après 20 heures. Et je ne voulais pas laisser croire que tout le monde à la rédaction était au courant, parce que ce n'était pas vrai, à cette époque-là au moins.
Et évidemment, une dernière personne à qui on a demandé des explications, c'est l'actuel présentateur du JT TF1, Gilles Bouleau.
Tu cours toujours.
Si vous ne faites pas... Voilà,
je cours, mais je n'ai jamais croisé.
Courir. Faut courir. Voilà. Et puis on fait plein de rencontres. Et puis
vous n'êtes pas dans les mêmes bois.
Et puis c'est le monde du...
Courir... Enfin, bah non, parce qu'on dit où il court à Paris, il y a tout le monde qui va courir derrière Gilles Bouleau.
Bah il y a un endroit qui est très connu, les cyclistes, c'est le Tour de Longchamp. Pour les coureurs à pied, c'est le Tour des Lacs, le Bois de Boulogne, et puis le parc de Saint-Cloud, la forêt de Meudon, mais ça peut être Kyoto, le Cap...
Est-ce que vous êtes aussi coureur que PPDA?
Ah. Ah.
J'entends un double sens.
C'est une bonne question, là.
J'entends un double sens. Non. Non, pas du tout.
Cette affaire embarrasse TF1 en ce moment?
Je crois pas. Non, non, parce que c'est petit 1, je pense que c'était il y a très longtemps. Petit 2, je pense que les protagonistes de l'époque ne sont plus là. Et troisièmement, alors à titre personnel, alors moi j'étais pendant 10 ans, j'étais pas là, mais j'étais là au début et je suis revenu en 2011. Je crois qu'il y a plein de gens qui étaient dans la rédaction, comme moi, qui ne savaient pas. Je ne savais pas. J'ai aucune raison de mentir ou de cacher, ou j'ai ni animosité ni protection à apporter à PPDA. Je ne savais pas.
Alors, il y a plusieurs choses intéressantes. D'abord, Muriel Rives, est-ce que vous pensez, comme le dit Michèle Cotta, qu'on a été aveugle? Ou qu'en tout cas, à TF1, on a été aveugle à l'époque?
Vous savez, j'ai envie de faire une analogie. Les violences faites aux femmes et aux enfants, c'est à peu près 230 000 cas par an. Les violences conjugales, longtemps dans l'entreprise, on a considéré qu'on n'avait pas à s'en occuper parce que c'était la sphère privée, l'entreprise, et que les violences, c'était la sphère publique et que les violences étaient la sphère privée. Moi, aujourd'hui, avec Femmes Avec, j'interviens dans beaucoup d'entreprises pour raconter, pour accompagner les entreprises sur ces sujets-là. Les entreprises, elles ont fait un boulot formidable. Elles ont considéré aujourd'hui que les violences, ça ne s'arrêtait pas quand on franchissait la porte de l'entreprise. Ça ne s'arrête pas, les violences. C'est comme ça ne s'arrête pas le week-end, ça ne s'arrête pas la nuit, etc. Là, c'est comme si on disait, ben, dans l'entreprise, finalement, ça ne nous regardait pas. Après 20 heures,
ça se passait... Ce que dit Dominique Bromberger.
Dominique Bromberger dit, ça se passait après 20 heures. Et so what? Après 20 heures, on était dans l'entreprise, il se passait des choses. Donc, je pense que personne n'a voulu voir, n'a voulu savoir. Voilà. Alors, je ne dis pas que les gens savaient, je dis que personne n'a cherché à savoir.
Benoît d'Aragon, ce que dit Gilles Bouleau, il dit c'est du passé, tout tous ces gens-là ne sont plus là. Et par ailleurs, il dit surtout, ça n'embarrasse pas du tout la direction de TF1. Alors,
la direction actuelle de TF1, le fait est qu'il y a peu de gens dans la direction actuelle de TF1 qui étaient là quand Patrick Poivre d'Arvor a quitté le 20h en 2008. C'est indéniable. Et que du coup, ils ont tendance à dire, circuler, il n'y a rien à voir. Vous voyez ça avec les précédentes équipes. Et là encore, M. Lelay est mort, M. Moujotte est mort. Donc c'est compliqué d'aller vérifier auprès d'eux des faits, vu qu'ils ne sont plus là pour s'expliquer. Après, sans doute que Gilles Boulot ne savait pas, j'en sais rien, je ne vais pas l'accuser de mentir. Il est possible que beaucoup de gens soient volés à la face, que des hommes ne se soient pas beaucoup intéressés à ce genre d'histoire, que des femmes qui aient pu être victimes de choses dans l'équipe de la rédaction de TF1 ne soient pas venues en parler aux plus illustres reporters, aux plus ambitieux de la rédaction, c'est très possible. Moi, j'avais interviewé une cadre de la rédaction, qui m'a dit, et elle était assez blessée par cela, en me disant, mais personne n'est jamais venu me voir, et même ça l'interrogeait sur l'image qu'elle renvoyait à ses collègues féminins, en disant, tu te rends compte, personne est venu m'en parler alors qu'elle était chef de service, et qu'elle dit, potentiellement, j'aurais dû être un interlocuteur de choix pour aller faire un signalement au RH ou faire remonter ça dans un recours hiérarchique. Et elle dit, donc c'est montrer la peur qui régnait. Et effectivement, les jeunes stagiaires qui arrivaient en stage d'été à TF1, elles allaient évidemment pas faire un scandale. Enfin, je dis évidemment, en tout cas, vu le logiciel de l'époque et le fonctionnement de cette boîte, à l'époque, elles ne se sentaient pas le courage et elles pensaient qu'elles allaient avoir plus d'ennuis qu'autre chose. En temps. Et c'est évidemment tout ce système du secret et du silence qui a explosé depuis MeToo et qui explique qu'aujourd'hui, le moindre écart d'une star de l'antenne fait l'objet d'un recours hiérarchique et d'un signalement RH, ce qui est juste totalement normal.
Il y avait une situation très simple hein, pour TF1, qui était très très simple à mettre en œuvre, et qui reste d'ailleurs simple à mettre en œuvre, qui serait le cas dans n'importe quelle entreprise autre d'ailleurs, hors médias peut-être, que dans les médias on a des comportements différents, mais ça aurait été de déclencher une enquête interne.
Oui, parce que alors, justement, j'allais y venir.
Pourquoi il n'y a pas l'enquête interne aujourd'hui? Franchement, ça serait extrêmement simple pour la direction actuelle. En plus, il va y avoir des transformations et des changements à la tête de ce média. Bah, je veux dire, c'est facile. Faites une enquête interne, au moins comme ça, tout sera sur la table. Les gens qui ne sont pas pu s'exprimer accepteront de le faire. Et puis voilà, et puis TF1 se sortira de ce problème, une bonne fois pour toutes.
J'allais dire justement, donc oui, en effet, la direction de TF1 n'a pas déclenché d'enquête interne. On a juste appris en préparant l'émission qu'ils avaient mis en place, qu'ils avaient nommé deux nouvelles référentes harcèlement au sein de la rédaction. Bon, après, les salariés à qui on a parlé nous ont dit... un peu un pansement sur...
Mais non, parce que vous voyez, cette question-là, elle est essentielle. Elle est essentielle dans toutes les histoires de violence, quelles qu'elles soient, sexuelles, conjugales, etc. Nommer des référents, c'est vraiment très bien dans les entreprises de le faire aujourd'hui. La question, c'est qui nomme-t-on comme référent? Parce que pour aller parler à quelqu'un dans une entreprise, il faut que vous ayez confiance. Donc moi, je ne sais pas qui a été nommé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de confiance. Je dis que c'est essentiel. Vous devez, une victime ou un témoin doit pouvoir s'exprimer en toute confidentialité et s'exprimer sur un territoire et une relation de confiance. Ça, c'est fondamental. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, pourquoi TF1 ne déclenche pas d'enquête interne? Ça leur permettrait d'être absolument clair sur leur politique, leur stratégie et se sortir de ces commentaires permanents que nous faisons tous sur cette chaîne, qui peut-être ne méritent pas aujourd'hui. J'entends.
Enquête interne qui a été lancée d'ailleurs pour l'affaire Bourdin.
Chez RMC
Découverte, qui, quand l'affaire sort, nomme dans les 48 heures, enfin très rapidement, une enquête interne pour savoir si des salariés de l'entreprise ont eu des problèmes avec Jean-Jacques Bourdin.
Jean-Jacques Bourdin, je rappelle juste, qui a été accusé d'agression sexuelle par une ancienne journaliste.
Exactement. Et donc très vite, il lance une enquête interne pour savoir s'il y a des victimes dans la rédaction, avec, en leur disant, parlez, sentez-vous libre de parler, il n'y a aucun souci. Et, évidemment, personne ne sera sanctionné, c'est anonymisé, enfin ça passe par des gens qui sont extérieurs à l'entreprise. Tout ça est assez simple et très, très fréquent dans les entreprises où il y a des soucis.
France Télévisions l'a fait dernièrement. Enfin, je veux dire, c'est un process très classique.
Et toutes les grandes boîtes, et toutes les grandes soucis. Dès que vous lisez une affaire de scandale sexuel dans une entreprise aujourd'hui, il y a une enquête interne qui est lancée.
Alors, justement, ces systèmes d'alerte, on a découvert dans le complément d'enquête que quelqu'un en avait mis en place dans son école. C'est Catherine Lambray, qui est l'ancienne directrice de l'Institut pratique de journalisme, une école parisienne reconnue par la profession. Et elle a fait une révélation fracassante.
Dans le petit monde des médias parisiens, se murmure déjà que le présentateur aurait un léger penchant pour les jeunes journalistes.
Bienvenue sur IPG News, voici le journal de 17h. À la une de l'actualité.
La rumeur se serait répandue à l'Institut pratique de journalisme qui plaçait ses étudiants à la télévision. Sa directrice de l'époque dit avoir été alertée par des journalistes d'Antenne 2 ou de TF1 qui y donnaient des cours.
chaque fois, il me conseillait, depuis l'année 83-84, et après, ensuite, les années suivantes, de ne jamais envoyer de filles là où PPDA pouvait être.
Donc à l'époque, vous faisiez en sorte d'envoyer quoi ? Que des étudiants ?
J'envoyais que des garçons.
En 1987, quand PPDA rejoint TF1, Catherine Lambret applique le même principe de précaution.
Quelle était la réputation de
Poivre ? C'était sa réputation. Il attaquait les filles. Pendant 10 ans, je n'ai jamais envoyé une fille en stage à TF1.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? C'est une accusation grave ?
C'est une accusation grave, mais l'ensemble des journalistes de la rédaction à l'époque le disaient.
Benoît d'Aragon, c'est vertigineux quand même, parce que ça veut dire que pendant plus de 10 ans, d'abord, des carrières ont été déviées, entravées, parce qu'on ne voulait pas mettre en danger ces étudiantes. Et surtout, ça commence bien avant TF1, parce que selon les démarches de Catherine Lambret, ça commence en 1982-83. Or, PPDA est arrivé à TF1 en 86.
Que dire ? Enfin, il n'y a rien à légender. Les propos sont très forts. Moi, je ne connaissais pas ce témoignage que j'ai découvert sur France 2 l'autre soir. Voilà, il est hyper fort et il montre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens comme Gilles Boulot qui disent qu'ils ne savaient pas. Madame Lambret dit que clairement, elle savait depuis très longtemps et que du coup, elle a protégé ses étudiantes en évidemment les privant d'aller faire un stage dans une grande chaîne de télévision, ce qui est évidemment un atout en début de carrière quand on veut être journaliste télé.
Par ailleurs, on a contacté d'anciennes étudiantes de l'IPJ qui nous ont toutes confirmé qu'elles étaient au courant à l'époque, qu'elles avaient entendu dire qu'en effet, elles n'iraient jamais à TF1 au sein de l'IPJ. Alors l'IPJ, il faut préciser, c'est une grande école de journalisme, hein, c'est pas n'importe quoi. Mmh. C'est quand même une institution dans la formation des journalistes en France. Muriel Arius, quand vous entendez ça...
Je veux dire, ce témoignage, il est imparable quand même. Hein. Puis qui pourrait le remettre en cause hein. Ce témoignage, il est d'une clarté, il est limpide. Quoi. Donc, il témoigne bien du fait que quand même, on savait. Donc... Voilà, que peut-on dire de plus, quoi ? Tout un milieu savait, tout un milieu à protéger. Voilà, et à protéger au détriment de victimes. Hein, je rappelle aujourd'hui, 26 témoignages, 17 plaintes, dont 7 pour viol. C'est pas rien, quoi. C'est une très grosse affaire qui aurait pu ne pas exister si... mis bout à bout, toutes ces personnes s'étaient préoccupées du sort de ces femmes rencontrées et invitées sur ce JT. Et bon, je précise que ce n'était pas le seul territoire de jeu, hein. Il y en avait d'autres, hein. Les salons littéraires, tous les événements culturels où ils étaient invités. Donc voilà, moi je peux le dire à titre un peu confidentiel, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas ces témoignages, n'ont pas rejoint l'enquête préliminaire. La deuxième enquête préliminaire qui est toujours en cours parce que certaines femmes ont témoigné et donc le procureur a rouvert une deuxième enquête préliminaire.
Qui avait été classée dans un premier temps.
Qui avait été classée pour prescription, hein, non pas pour non-reconnaissance des faits, mais pour prescription. Donc nous recevons tous les jours des témoignages qui confirment le mode opératoire de ce personnage.
Alors on précise que ces témoignages que vous recevez, évidemment, pour l'instant, n'ont pas encore été
bien sûr, c'est
vérifiés.
Ce que je viens de dire. Avec toutes les précautions d'usage.
Oui, bien sûr.
Mais voilà, encore une fois, pourquoi autant de femmes raconteraient des procès similaires, organisés, systématisés
Et puis, je pense
Il ne peut pas y avoir de doute, quoi.
Nous, quand on a eu des témoignages récurrents en faisant notre enquête en février 2021... Je posais des questions dont je connaissais les réponses, mais pour voir si effectivement les histoires de bureau, comment il était précisément, moi j'en avais la description, mais je recoupais, j'imagine c'est ce que fait Muriel. Et ce qui est fou, c'est que toutes ces femmes ne sont pas des menteuses, contrairement à ce que Patrick Poivre disait dans Quotidien, c'est qu'elles racontaient très précisément des lieux, des escaliers, des étages, elles avaient tout bien en mémoire, et effectivement le puzzle, il était assez facile à reconstituer.
Oui, pour vous, il n'y a jamais un témoignage qui... sortait du lot parce qu'il n'était pas concordant ou pas. Pour vous, il n'y avait pas de doute sur...
Il y a toujours un doute. C'est mon métier de douter, donc il y a toujours un doute. Mais je vous dis, par des petits détails, j'arrivais à recouper, à m'apercevoir que les témoignages étaient crédibles. Et après, ce qui fait la crédibilité, c'est aussi l'association de témoignages. Et c'est pour ça que quand Florence Porcel a parlé au début Beaucoup de gens, de lecteurs, de commentateurs, de personnalités de la télé avaient des doutes en disant c'était un témoignage fragile. Je cite les mots qui revenaient souvent dans les retours qu'on me faisait. Et à partir du moment où Hélène Devinck, d'abord dans Le Monde, puis Muriel et les six autres femmes, je crois que vous étiez dans Libé. À témoigner, voilà, visage découvert avec leur nom, leur prénom, leur métier, c'est venu renforcer. Le témoignage. Vous êtes venu en aide quelque part à Florence Portel et du coup ça a renforcé son témoignage parce que tout d'un coup il n'y avait pas qu'une seule femme contre PPDA, c'était plusieurs femmes qui racontaient toutes la même chose, les mêmes protocoles, les mêmes faits et qui le faisaient à visage découvert sans faire la promotion pour quoi que ce soit. Voilà, elle venait juste dire moi aussi il m'est arrivé la même chose, moi aussi et moi aussi c'est MeToo. C'est exactement le sens de la démarche qui a été lancée aux États-Unis.
On était sept, dans l'IB. C'était
une huitième femme qui témoignait, pas à visage découvert.
Non, mais il n'y a pas de doute, il n'y a pas eu de doute pour le major, parce que la conclusion de la première enquête préliminaire...
Quand vous dites le major, je précise juste à chaque fois, c'est la personne qui vous a interrogé dans l'enquête.
Oui, le major de police, qui nous a tout interrogé. Le major conclut en disant il y a un mode opératoire de prédateur, et il le dit, et il l'écrit. Donc...
Il parle de quelqu'un qui utilise sa notoriété pour agresser des femmes.
Oui, il dit quelqu'un qui utilise sa notoriété pour agresser des jeunes femmes avec un mode opératoire très clairement construit, qui est systématiquement le même, un mode opératoire.
Sur ce point-là, je voudrais qu'on écoute l'avocate de Patrick Poivre-Dhabar, l'une de ses avocates, Jacqueline Lafont. Elle a répondu aux accusations sur le plateau de C'est à vous, après les témoignages publiés dans Libération.
Il y a une enquête, et cette enquête-là, encore une fois, elle a donné lieu à une conclusion qui, certes, dans une motivation un petit peu en retrait par rapport à celle qui a été écrite et qui a été rendue publique, le procureur de la République de Nanterre, après une enquête approfondie, a considéré que où les faits étaient prescrits, où ils n'étaient pas établis, où ils ne correspondaient à aucune infraction, il y a eu vraiment, je le dirais, de nombreux témoins qui ont été entendus et qui viennent contester les accusations qui sont portées.
Et ce qui interpelle évidemment dans le travail de Libération, c'est le dossier, c'est l'exposé des faits. Et là, on n'est pas simplement sur le plan pénal, on est sur la révélation d'un système, d'un comportement qui a pu perdurer pendant des années, qui s'est exercé... sans doute auprès d'autres victimes et bien au-delà de celles qui ont témoigné à visage découvert dans les colonnes du journal.
Alors là, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Il y a d'autres victimes, je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien.
D'autres plaignantes. Et
on ne dit pas victimes d'abord.
D'autres
merci,
plaignantes.
Merci. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des personnes qui sont des plaignantes et qui ne sont même pas toutes des plaignantes. Je dis simplement que l'on a joué le jeu de la justice, qu'on a apporté des preuves. Nous avons apporté des preuves dans un domaine où c'est extrêmement difficile. Nous avons démontré que certaines de ces femmes mentaient. Nous avons démontré des preuves matérielles contraires à leur témoignage. Nous avons une décision de justice qui ne peut pas être autre chose que celle qui a été rendue en l'état. Et aujourd'hui, parce que cette décision ne plaît pas, eh bien on la contourne et on essaie de porter le procès sur un terrain médiatique qui s'affranchit de toutes les règles, qui sont des règles fondamentales dans un état de droit, qui sont celles de la justice.
Marie-Laure, je vous entendais réagir pour mon extrait, vous disiez « ça, c'est pas vrai ».
Non, ce que je veux dire, c'est que, d'abord, ce qu'elle ne dit pas, c'est que les deux premières plaintes de M. Poivre d'Arvor ont été classées sans suite par le procureur. Donc, s'il y avait des preuves qui avaient été apportées, pourquoi ces affaires ont été classées, ces plaintes-là ont-elles été classées sans suite ? Ensuite, ce qu'elle ne dit pas très clairement non plus, elle est dans son rôle, c'est le rôle de l'avocate de PPDA, elle ne dit pas non plus que les affaires ont été, nos plaintes ont été classées pour prescription. Et je rappelle encore une fois que prescription ne veut pas dire non fait. C'est ça qui est fondamental pour vos auditeurs et vos téléspectateurs. Il faut bien comprendre que les plaintes qui ont été classées sans suite l'ont été parce qu'il y avait cette notion de prescription. Voilà, ça ne remet pas en cause les faits de PPDA.
Ça empêche juste de les juger. Ça empêche juste de les qualifier juridiquement.
Et alors justement, c'était ma question pour vous, Benoît d'Aragon, parce que là, on est un peu au cœur du conflit entre le temps judiciaire et le temps journalistique. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, Jacqueline Lafont dit « la justice est passée ». Alors, elle parle avant la réouverture de l'enquête. Pourquoi les journalistes continuent ? Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait se dire « bah, ça y est ». La justice est passée, pourquoi vous continuez à attaquer ?
On arrête de faire notre métier à ce moment-là, on se contente de lire des communiqués de presse. Et voilà. Après, nous, on apprend des faits qui nous semblent importants d'être témoignés. C'est tout un aspect du visage du présentateur le plus connu de France. On vérifie notre travail, on fait une enquête, on n'est pas policier, on n'est pas juge, on ne fait pas une enquête policière, on fait une enquête avec nos moyens. Et voilà, ça nous semble nécessaire et important de raconter ça. de mettre ça sur la place publique. Après, effectivement, la plupart des faits sont prescrits, la plupart, pas tous. Et voilà, après, on ne s'acharne pas. On n'a pas fait beaucoup de papiers sur Patrick Poivre d'Arvor. In fine, on a fait deux ou trois papiers. On a fait le premier papier, on a fait une interview de Florence Porcel, on a fait une enquête. Et après, voilà, on fait des petits... On a donné la place à sa défense quand il allait à Quotidien, et c'était normal. Et voilà, et après, comme disait Muriel, tout à l'heure, il y a... des nouvelles enquêtes qui arrivent, qui sont ouvertes, des nouvelles plaintes, y compris que dépose Patrick Poivre d'Arvor, et on en fait écho souvent dans une petite brève. Voilà, on tient compte de l'avancée de l'affaire, mais j'ai pas l'impression que la presse s'acharne outre mesure. Et quand il y a des plaintes, ils en font part, et après, c'est à la justice de trancher. Quoi.
Et aujourd'hui, vous continuez d'enquêter sur l'affaire PPDA ?
Oui, évidemment, quand quelqu'un nous appelle pour nous dire quand une femme m'appelle pour me dire qu'elle a été victime de PPDA, évidemment, je l'écoute, évidemment, je note ce qu'elle me dit, je regarde, si je lui demande si elle veut aller en justice ou pas. Nous, on s'est fixé comme règle que soit les personnes portent plainte et à ce moment-là, on peut en faire part dans nos colonnes, soit elles ne le font pas et à ce moment-là, nous... on décide de ne pas le publier, ce qui veut dire que, voilà, contrairement à ce que dit Jacqueline Lafont, on n'est pas irresponsable. Enfin voilà, on suit évidemment les règles qui s'appliquent.
Pourquoi cette règle ?
C'est une règle qu'on s'est fixée sur cette affaire, sur beaucoup d'affaires, mais c'est vrai que quand il n'y a pas de plainte, on a tendance à ne pas le faire.
D'accord.
Même après, plainte, des femmes peuvent aller porter plainte pour des faits qui seront prescrits, donc ça n'aboutira sur rien. Mais c'est vrai qu'on reste là-dessus.
Même si vous aviez une accumulation de témoignages, vous préféreriez qu'il y ait une plainte pour...
On préfère qu'il y ait une plainte. Ouais. Après, dans les faits, il nous est arrivé de... C'est pas une règle complètement figée, mais c'est vrai qu'on s'est... Disons que c'est une ligne de conduite et que parfois, il y a des exceptions où, effectivement, on a une accumulation de témoignages et on dit qu'on y va. Que c'est assez solide et assez conséquent pour qu'on puisse y aller.
Muriel Réus, Patrick Poivre d'Arvor vous accuse, avec d'autres, de dénonciations calomnieuses. Pourtant, vous n'aviez pas porté plainte contre lui. Pourquoi vous n'aviez pas porté plainte ?
Et je voudrais juste dire avant, l'affaire, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce que, d'abord, il y a la plainte en constitution de partie civile de Florence Porcel, avec là une non-prescription. Ensuite, il y a l'ouverture de cette nouvelle enquête préliminaire par le procureur parce qu'il y a eu de nouvelles plaintes et donc l'enquête est encore en cours. Et puis, il y a PPDA qui a remis l'histoire dans la machine en portant plainte contre cette femme dont je fais partie. Et nous espérons, je dois le dire, qu'il ne retirera pas cette plainte parce que nous sommes heureuses de pouvoir aller au tribunal raconter de façon publique ce qui s'est passé et on maintiendra nos accusations d'agression sexuelle et de viol. C'est extrêmement important.
Vous pensez qu'il ira au bout de cette plainte ?
On l'espère. Ça me paraît peu probable qu'il aille au bout parce que 16 femmes à la barre qui maintiendront leurs accusations, plus celles que l'on pourra citer, plus les nouveaux témoignages. C'est quand même le procès du siècle, non ? En matière de violence et d'agression sexuelle.
Benoît d'Aragon, le procès du siècle, pour les médias, c'est peut-être la plus grosse affaire MeToo depuis...
En France, c'est une des plus grosses affaires, enfin c'est même la plus grosse affaire MeToo en nombre de victimes et en nombre de victimes qui ont soit porté plainte, soit qui se sont fait connaître médiatiquement. C'est effectivement plus fort que d'autres hommes qui ont été dans les mêmes situations. On ne se rend pas bien compte, je ne suis pas sûr que le public s'en rende compte, mais les chiffres qu'on donnait tout à l'heure... 26 témoignages, une quinzaine de plaintes. C'est vraiment très, très, très important.
16 plaintes.
Ouais. 16 plaintes, voilà. Il n'y a jamais eu autant de femmes qui ont été portées plainte contre un homme en France. Voilà. Jamais. Donc, effectivement, on en parle, les journaux en parlent. Effectivement, on feuilletonne un peu ce qu'on peut nous reprocher. Mais honnêtement, quand vous regardez le nombre de papiers sur l'ensemble de la presse, on ne fait pas non plus des articles toutes les semaines. Et c'est quand même... Le nombre est très massif. Et donc, ça justifie qu'on en parle. Pour répondre à votre question d'il y a un quart d'heure même, qu'on en parle, vu l'ampleur des faits reprochés, c'est normal qu'on en parle.
Alors je le disais, hein, Le Parisien, vous êtes poursuivi en diffamation pour ces premières enquêtes. Concrètement, ça veut dire quoi quand un journal est poursuivi en diffamation par PPDA ?
C'est assez courant, régulièrement, des personnes qui estiment avoir été diffamées dans la presse attaquent, donc ils attaquent en diffamation... un journal, donc c'est le directeur de la publication qui est responsable, plus les auteurs de l'article.
Vous avez une date pour le...
Oui, juillet 2023.
D'accord, voilà, donc l'année prochaine.
La justice, c'est long.
la justice est long.
Là, il n'y a pas d'histoire de prescription, puisque tout ça est intéressant. Donc voilà, l'année prochaine, il y aura un procès.
D'accord. Muriel Réus, avec d'autres femmes qui ont témoigné contre PPDA, vous avez créé MeToo Media.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ?
MeToo Media, c'est un espace, un cadre de recueil des paroles des victimes dans l'univers des médias, hommes ou femmes, hein, bien évidemment. Et on a des hommes qui nous appellent aussi et qui veulent témoigner. Voilà, c'est un cadre d'accompagnement psychologique, juridique, d'écoute.
C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, une femme peut vous appeler pour demander de l'aide.
Oui, une femme qui est victime d'agressions sexuelles, de viols, dans l'univers des médias, ou qui a besoin d'être accompagnée, peut nous appeler, peut prendre contact avec nous. Et on a une plateforme d'écoute qui a été mise en place, qui est d'ailleurs supportée par Audience. Et voilà, et on a tout un dispositif qui est en train de se mettre en place pour accompagner les plaignantes, les victimes, et toutes celles et ceux qui auraient besoin d'être accompagnés dans l'univers des médias.
Merci. À tous les deux d'être venus sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. À très vite.